Chapitre 2. Bayot rêvait de Jeannine, cette jeune femme qu'il avait rencontrée dans un bar quelques semaines auparavant. Elle l'attendait au coin d'une rue, et il s'aperçut tout de suite qu'elle était folle. Elle prononçait des obscénités et menaçait le médecin avec un énorme bâton. Bayot cherchait désespérément à attirer l'attention de nombreux passants, mais tous continuaient leur route indifférents. La femme se jeta sur lui, et d'un coup violent à la nuque, elle le fit tomber par terre. Tandis qu'il essayait de se relever, il s'aperçut qu'un attroupement s'était formé autour de lui. Il reconnaissait le visage d'anciens malades. Il voulait leur expliquer que tout ça n'était pas sa faute. Mais aucun son ne sortait de sa gorge. Le téléphone sonna, et il fallut à Bayot une longue minute pour émerger de son cauchemar. Il donna machinalement un coup d'œil à sa montre et vit qu'il était 2 heures. Qui donc pouvait bien l'appeler à 7 heures? Il eut envie de ne pas répondre. Il ne se sentait pas la force de se traîner jusqu'au téléphone. La sonnerie insistait, inquiétante et impérative. Il réussit à se lever et se dirigea vers son bureau péniblement, car il avait les jambes engourdies. « Oui, j'écoute. » Il y eut un silence, et dès la première seconde, Bayot sut que c'était Corinne. « C'est toi, Corinne ?»« Oui, Philippe vient d'avoir un accident, renversé par un chauffard qui a pris la fuite. On l'a transporté à l'hôpital Michel Servet. Comme ce n'est pas très loin d'ici, j'y vais directement. Tu me retrouves là-bas »« J'y vais. Tu ne sais pas ce qu'il a ?»« Non, on m'a simplement téléphoné. »« À tout de suite, j'arrive. » Bayot raccrocha et se dirigea vers la salle de bain. Il ne voulait pas s'inquiéter. Ce ne serait rien. Tout cela n'était que le cauchemar qui continuait. La seule chose qui importait, c'était de mettre un pied devant l'autre, et il y arrivait avec peine. « J'ai l'air d'un homme saoul, » pensa-t-il. Il essayait de se hâter, mais ses gestes étaient maladroits, et en même temps, il ne réussissait pas à s'arracher à la pièce. « Je suis incapable de conduire. Je vais appeler Lambert. » Son ami n'était pas chez lui et sa ligne était branchée sur le service des abonnés absents. Il laissa un message et demanda un taxi. « Jamais je ne me suis senti aussi épuisé, aussi indifférent. J'aurais dû téléphoner d'abord à l'hôpital. J'aurais été fixé tout de suite. » La seule pensée de devoir affronter la voix désagréable de quelques standardistes le fit de nouveau hésiter. Il aurait fallu expliquer qui il était, donner des détails sur l'accident, attendre de longues minutes au bout du fil. Il se dit que le taxi allait arriver. Il avala 3 comprimés d'aspirine et alluma une cigarette. La fièvre ne l'avait pas encore quitté, mais il constata avec plaisir que si son corps répondait mal, il pouvait au moins se traîner. Il se retrouva devant la porte cochère de l'immeuble au moment où le taxi arrivait. « Hôpital Michel Servet. Ce n'est pas une adresse, ça. Le nom de la rue, ça vous dérangerait de me la donner ?» Bayot vit qu'il avait affaire à un de ces jeunes agressifs qui n'avait déjà plus rien à attendre de la vie. Mais l'adresse de l'hôpital lui échappait, alors qu'il se trouvait pourtant à quelques centaines de mètres de Léon Rostand. « Ça va, ne vous fatiguez pas à me répondre, » grogna le chauffeur. « J'ai trouvé sur mon plan. C'est à côté du Palais Royal. Pouviez pas le dire plus tôt ? Des hôpitaux, il n'y a que ça à Paris. On ne s'y retrouve plus. » Il démarra en trompe et Bayot se trouva projeté contre la portière. L'homme avait mis la radio et on y parlait du Proche-Orient. Bayot n'eut pas la force de lui demander d'éteindre le poste. La voiture traversait Paris à grande vitesse. Bayot avait fermé les yeux, et il pensait maintenant que Philippe allait peut-être mourir. Il en était de plus en plus sûr, mais en même temps, il ne parvenait pas à s'en inquiéter vraiment. Pas plus que ne l'irritait l'embarras d'avoir à retrouver Corinne pour la première fois depuis leur divorce. « Toujours leurs sacrés travaux, » maugréait le chauffeur. « Ils n'auront donc jamais fini ? Regardez-moi cet abruti. C'est une femme, évidemment. Allez, encore une déviation !» On n'y arrivera donc jamais. Bayot se souvenait de cet hôpital de Garches qu'il avait visité l'année précédente. Philippe s'y retrouverait-il également un jour ? Serait-il paralysé pour la vie? Toutes ces idées défilaient dans son cerveau sans qu'il pût s'attacher à aucune. On approchait de Montparnasse. L'hôpital n'était plus loin désormais. Bayot se sentait mieux. Il espérait qu'entre-temps, Lambert serait rentré chez lui et aurait écouté son message. Peut-être serait-il même arrivé à Michel Servet avant lui. Cela éviterait un tête-à-tête ennuyeux avec Corinne. D'autant plus que Corinne n'avait jamais pu supporter Lambert. S'il était là, la conversation s'enliserait dès la première phrase. Mais sans doute Lambert n'était-il pas encore rentré chez lui. Il devait à cette heure errer dans les rues de Paris. Il dormait rarement plus de 4 heures. Il n'avait pas besoin de plus. Bayot se souvenait l'avoir vu une fois opéré, quand il était interne, en état d'ivresse avancée, sans que sa main eût tremblé d'un millimètre. L'opération avait duré 3 heures. On atteignait l'hôpital, et en regardant de nouveau sa montre, Bayot constata qu'une heure s'était écoulée depuis que Corinne l'avait appelée. Elle était seule dans la salle d'attente et fumait une cigarette. Bayot se dirigea vers elle et l'embrassa sur la joue. « Alors ?»« Toujours rien. Je crois que c'est l'abdomen qui a pris. »« Je vais aller voir. Ils vont me dire. » Corinne le retint par la manche. « Reste ici un peu, je t'en prie. Ça n'avancera à rien. »« Mais qu'est-ce que tu as ? Tu as l'air malade. » »« J'ai de la fièvre, une vilaine angine. Je me suis bourré d'antibiotiques et je ne tiens plus debout. » »« Tu me faisais l'impression d'un homme ivre. » « Tu sais bien que je ne bois pas. Lambert n'est pas ici ? Pourquoi, tu l'attends ? Décidément, mon pauvre Jean-Louis, tu ne peux pas faire un pas sans lui. » Bayot ne répondit pas. Il avait répondu calmement tant et tant de fois qu'il savait bien que c'était inutile. « Quand as-tu été prévenu ? » ?»« Vers 1h30. Je crois que Philippe avait mon numéro sur son agenda. Une chance que je me sois trouvé là. » Tu allais repartir en reportage? Je devais partir demain en Israël. Marc-Angéli va me remplacer. Tu as pris les vacances? Non, en septembre, les Baléares. Je ne te demande pas si tu en as pris. Si, ce mois-ci, le Kenya. Hein? Des vacances? Et au Kenya? Ça, c'est nouveau. Ils se turent pendant de longues minutes, ne sachant plus de quoi parler. Bayot s'étonna qu'ils aient pu vivre 22 ans ensemble. Contrairement à ce qu'il avait pensé, les plaies du divorce n'étaient pas cicatrisées. Les juges avaient tout envenimé, songea-t-il avec amertume, car en voulant protéger une institution, le droit mutilait l'être humain et culpabilisait les innocents. Il se leva. « Je vais me renseigner. Cette attente est intolérable. » Et je n'arrive pas à me rappeler le nom du chef de service de ce foutu hôpital. » Il se dirigea vers la porte. Elle s'ouvrit au moment même où Bayot l'atteignait. Un chirurgien en blouse blanche, d'une 30aine d'années, s'arrêta sur le seuil. « Vous êtes les parents Bayot ?» Jean-Louis tendit la main vers l'arrivant. « Je suis le professeur Bayot, chef de service d'hématologie à l'hôpital Léon Rostand. C'est mon fils qui a été renversé. » Le chirurgien se figea. « Oh, excusez-moi, monsieur le professeur. Je suis Coudray, chef de clinique. Comment va mon fils ?» L'homme fit la grimace. « Il en réchappera, sans doute. Étant donné son état de choc, je soupçonne un éclatement de la rate. Dans ce cas, il va falloir en faire l'ablation. La réanimation va encore demander quelque temps. C'est en fait ce dont je voulais vous parler. Il a perdu beaucoup de sang. » Et actuellement, on le transfuse. Mais son groupe AB n'est pas le plus courant. « C'est le mien, » murmura Bayot. « Parfait. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. » Bayot se tourna vers Corinne. « Je reviens dans quelques minutes. Ça ne sera pas long. » Les deux médecins se retrouvèrent dans le couloir. Et Bayot posa la main sur l'épaule du chirurgien. « Excusez-moi, je ne voulais pas le dire devant ma femme. » « Je ne peux pas donner mon sang à mon fils, car je suis actuellement sous traitement. » Le visage du jeune chirurgien se tendit. « Je suis désolé. Nous nous débrouillerons autrement. Quel est le groupe de votre femme ?»« A+. Mais j'attends un ami qui est du même groupe que moi. Est-ce que je peux téléphoner ?»« Bien sûr. Venez, s'il vous plaît, dans mon bureau. De toute façon, nous avons assez de sang pour le moment. Je retourne au bloc et vous tiendrai au courant. » Bayot n'eut aucune difficulté à obtenir l'appartement d'Yves de Lambert. La ligne était rétablie. Lambert devait être en route pour l'hôpital. « Déjà terminé ?» demanda Corinne, en voyant Jean-Louis Bayot entrer de nouveau dans la salle d'attente. « Non. Avec les antibiotiques que j'ai pris contre mon angine, il est préférable que je ne donne pas mon sang. Lambert sera là d'une minute à l'autre. Il donnera le sien. « Ah, en plus, vous avez le même groupe sanguin, tous les deux. » « Oui, ce sont des choses qui arrivent. » « Le chirurgien t'a dit autre chose ?»« Non, mais il pense que Philippe a de bonnes chances de s'en sortir. » L'opération ne peut pas commencer immédiatement, car il faut auparavant lui donner du sang pour qu'il puisse supporter l'intervention. Ils entendirent la porte d'entrée qui s'ouvrait violemment, et l'instant d'après, Lambert pénétrait dans la salle d'attente. « Jean-Louis, que se passe-t-il ? » « Philippe a eu un accident. On envisage une splénectomie. Peux-tu donner ton sang ?»«
Je suis prêt. »«
Grave ?»« On ne sait pas encore. L'intervention n'a pas débuté. » « Excusez-moi, Corinne, je ne vous ai pas salué. Bonsoir, Yves. » Le chirurgien pénétrait de nouveau dans la pièce. La tension remonte peu à peu. Je pense qu'on pourra commencer à intervenir d'ici une demi-heure. Voici le professeur agrégé de Lambert. Il accepte de donner son sang. « Suivez-moi, monsieur, mais ça ne sera pas nécessaire. » Il se tourna vers Bayot. « Est-ce que vous voulez assister à l'intervention, monsieur, ou simplement voir votre fils ? Il n'a aucune blessure apparente. » « Non, je préfère rester avec ma femme, et ma présence pourrait vous ennuyer. » « Comme vous voudrez. Comptez sur nous pour faire l'impossible. Je me suis permis de téléphoner à mon maître, le professeur Courcelles-Fessac. Il n'était pas de garde, mais il n'a pas hésité un seul instant dès qu'il a su qu'il s'agissait de votre fils. » « Je vous remercie, » dit simplement Bayot. Il connaissait Courcelles-Fessac de réputation. Outre une exceptionnelle compétence professionnelle, il avait montré en mai 68 une non moins exceptionnelle faculté d'adaptation aux circonstances. « Je vous ai fait apporter du café dans mon bureau. Vous pouvez vous y installer, bien entendu. Madame pourra éventuellement utiliser le divan si elle désire se reposer. Je vous prie de m'excuser. » « Voulez-vous venir avec moi, monsieur ? » dit-il enfin, en se tournant vers Lambert. L'attente se prolongeait. Corinne s'était allongée et somnolait. Bayot la regardait sans comprendre. Ce corps, vaincu par la fatigue et les émotions, lui semblait à la fois singulièrement familier et étranger. Il ne réussissait pas à s'expliquer comment un être avec qui il avait partagé 22 ans de son existence fut soudainement devenu si lointain, inaccessible. L'accident de leur fils ne les avait pas rapprochés. Tous deux luttaient côte à côte contre l'inquiétude, mais ils ne communiaient pas dans la même souffrance. Il se souvint de l'agonie d'Antoine Thibault, dont il venait de relire l'histoire. Une phrase l'avait particulièrement frappé, et il l'avait notée sur une des pages de son agenda. Il le chercha dans la poche intérieure de son veston et retrouva aussitôt la citation. C'était son habitude de noter ainsi les passages qui le marquaient et qui lui semblaient résumer en quelques lignes l'expérience de toute une existence. « Étanchéité de l'animal humain », avait écrit Antoine. « Nous aussi, nous gravitons les uns autour des autres, sans nous rencontrer, sans nous fondre. » Chacun faisant cavalier seul, chacun dans sa solitude hermétique, chacun dans son sac de peau, pour accomplir sa vie et disparaître. Il fallait que Philippe vive, car son destin n'était pas encore accompli, mais lui, Bayot, pouvait disparaître. Il avait fait ce qu'il avait à faire, et il était plus que jamais fatigué du poids de la vie. Être assez fort pour ne pas attendre la cachexie terminale, ce lent et progressif acheminement vers la mort. Il pensa avec tristesse que la vie n'était faite que d'ironie. S'il avait été croyant, il lui aurait été si facile d'offrir sa vie, comme disait sa mère, pour sauver celle de son fils. mais il ne pouvait même pas lui donner son sang. Le matin se levait. À travers les interstices des persiennes tirées, on pouvait deviner les premières lueurs de l'aube. À cette heure, sans doute, des milliers d'hommes et de femmes attendaient un rendez-vous avec la mort. Et combien, comme lui, comme Corinne, avaient le regard fixé sur une porte qui allait s'ouvrir devant un chirurgien. Courcelles-Fessac ne devrait plus tarder maintenant. Encore heureux que ce fût lui et pas un jeune interne qui peut-être aurait accumulé de fatales erreurs. Le médecin, Bayot le savait bien, est un autodidacte qui n'apprend qu'au fil de ses expériences, de ses réussites et de ses échecs. Quelqu'un qui a un CAP de soudeur est quelqu'un qui sait souder, répétait souvent Lambert. On peut lui faire une totale confiance. Malheureusement, un doctorat de médecine n'est pas un CAP. Ce n'est qu'après que l'on commence à apprendre. Bayot s'était souvent demandé si ses études, pourtant brillantes, l'avaient réellement préparé à la profession qu'il exerçait. Jeune médecin, il avait eu tant de peine à démêler quelques lignes de conduite précises dans le magma de ses connaissances. Sans l'internat, il aurait eu son doctorat, rappelait-il souvent, sans avoir jamais eu l'occasion d'assister à un seul accouchement. Il était en revanche incollable sur des maladies aussi importantes que la peste, la bilharziose vésicale, la lèpre, le trichuris et la dengue. Les étudiants savaient bien à la faculté que les sujets d'examen sortaient en fonction inversement proportionnelle aux chances de rencontrer la maladie en question au cours de leur carrière médicale. Et l'importance démesurée de l'exposé magistral, souvent répété de génération en génération, était une sourde invitation à la paresse, puisqu'il suffisait de redire mot à mot les notes prises pour obtenir le satisfecit nécessaire. Faute de crédit, l'encadrement avait toujours été insuffisant. Faute d'imagination, on continuait comme par le passé de perpétrer les mêmes scléroses. Mais surtout, songea Bayot, son ignorance du malade en tant que malade, c'est-à-dire en tant qu'être humain doué de sensibilité et d'intelligence, lui avait toujours fait défaut. Curieusement, ce n'est que par le biais de la littérature qu'il en avait eu l'intuition, et que, peu à peu, il avait fini par oublier ce malade intellectualisé dont on lui avait toujours parlé durant ses études. La timidité, même si elle se cachait parfois sous un masque de froideur glaciale et de franche agressivité, était le lot de bien des médecins dans les rapports qu'ils entretenaient avec leurs patients. Rien ne symbolisait mieux le ridicule des études de médecine que cette hilarante mascarade de la soutenance de thèse où, dans certaines villes, le candidat devait encore porter la toge. Après l'avoir félicité pour son travail, le président du jury venait déposer sur l'épaule du nouveau docteur en médecine l'hermine qui lui avait toujours fait songer à la croix que les religieuses donnaient aux bons élèves avant le départ en vacances. L'hermine est un mammifère carnassier, ne manquait jamais d'ironiser Lambert. Et les carnassiers se caractérisent par leurs crocs et leurs griffes. Chaque jour, les grands patrons arpentaient allègrement les salles où souffraient les malades, distribuant des diagnostics péremptoires avec le sérieux d'un gourou. Lambert lui avait souvent rappelé le cas de ce chef de service, distrait ou indifférent, qui, devant une pancréatite, avait prescrit du xylophène. Les internes avaient rétabli d'eux-mêmes et avaient donné aux patients du zimophrène. Freud n'a pas toujours tort, disait Lambert. Il y a des lapsus significatifs. Ce médecin-là prenait ses malades pour des limaces ou des insectes. À moins que ce n'eût été un de ces rares humoristes dont s'honore notre profession. On frappa à la porte et le jeune chirurgien apparut en compagnie du professeur Courcelles-Fessac que Bayot reconnut aussitôt. Vous pouvez aller voir votre fils, mon cher ami. La rate était effractée en plusieurs endroits. La splénectomie a été difficile, car j'ai eu du mal à saisir le pédicule. Mais il n'y a pas eu de problème vital. Votre fils a perdu beaucoup de sang, mais je pense que les suites opératoires seront normales. C'est du moins ce que j'espère, car, bien entendu, le chirurgien ne peut qu'être réservé dans les jours qui suivent toute intervention de ce genre. Coudray, un des assistants que j'ai moi-même formé, et qui sera certainement un de nos plus brillants agrégés, poursuivit-il en baissant la voix, va suivre personnellement les suites de l'intervention. Et je lui ai bien dit qu'à la moindre anomalie, il devait m'appeler aussitôt. Je resterai à mon domicile pendant le week-end. Je devais partir en Sologne pour une partie de chasse, mais j'ai tout annulé. C'est bien naturel. Je vous remercie. C'est la moindre des choses, mon cher ami, dit-il en prenant Bayot par le coude et en l'amenant à l'écart. J'ai beaucoup apprécié vos communications au dernier congrès, reprit le chirurgien. Bayot savait bien qu'il n'avait fait aucune communication, mais n'eut pas le courage de détromper son confrère. Oh, j'oubliais, continua-t-il. Lambert vous prie de l'excuser. Il a dû rejoindre son domicile après l'intervention. Entre nous, je crois qu'il a surtout voulu éviter la scène des remerciements. Philippe reposait maintenant dans une des chambres de l'hôpital. Il avait fallu transporter les deux précédents occupants à la salle commune, mais cela Bayot l'ignorait. « Je resterai là toute la matinée, déclara Corinne. Le mieux est que tu ailles te reposer. Tu n'as jamais eu aussi mauvaise mine. S'il se passe quoi que ce soit, je te téléphonerai. Je te remercie. Je vais suivre ton conseil car je me sens fiévreux. Comme je reprends le travail demain matin, j'aimerais me débarrasser de cette angine. Au revoir, Jean-Louis. À plus tard, peut-être. » Ils s'embrassèrent et Jean-Louis descendit lentement les marches qui le séparaient de la porte d'entrée. L'air frais lui fit du bien. Il décida de descendre à pied jusqu'à la place Saint-Jacques, où il trouverait sûrement un café ouvert. En ce dimanche d'août, les rues étaient calmes et la circulation très fluide. L'opposition de la ville et de la campagne, sujet d'or des rédactions de son enfance, l'avait toujours laissé indifférent. La nature l'ennuyait. Il n'était heureux qu'à l'hôpital ou dans sa bibliothèque. Et il aimait Paris en été quand ses habitants l'avaient déserté. Il prit un café et téléphona à Chantal pour lui raconter ce qui était arrivé. « Veux-tu que je rentre à Paris ?» demanda-t-elle. « Pas avant ce soir. J'ai surtout besoin de dormir et je dois repasser à Michel Servet cet après-midi. Nous mangerons dans un restaurant chinois si je suis en forme. » Il raccrocha et se demanda pourquoi il lui avait parlé de restaurant chinois. « Aurais-je quelque chose d'important à lui annoncer ?» se demanda-t-il. Il traversa la place à la recherche d'un taxi. Un vol de pigeons prit son essor. Sur le trottoir, un couple d'amoureux se séparait. « Comme il fait bon être amoureux à Paris un dimanche d'août, » songea-t-il.